Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, un meurtre commis en août 2015 à Toulouse sur fond de toxicomanie. Le meurtre d'Eva Bourceau, 23 ans, que l'on retrouve l'image à marquer baignant dans un bain d'acide chlorhydrique. Et pour vous raconter cette histoire de la découverte du corps d'Eva jusqu'au procès de ses tueurs, je vais m'appuyer sur le travail très complet d'une journaliste qui s'appelle Élise Costa et qui est là avec moi. Bonjour Élise.
Bonjour.
Vous racontez toute cette histoire dans une série de 9 articles, 9 épisodes en vérité, qui ont été publiés en décembre 2018 sur le site slate.fr. C'est un travail donc de presse écrite, mais en épisode, ce qui est quand même extrêmement rare, j'ai trouvé vraiment très intéressant comme démarche, même si moi là-dedans il a fallu que je trouve mon chemin pour tracer l'histoire qui va suivre, que j'ai écrite avec Thomas Oudouard. Réalisation, Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est souvent pareil, un meurtre. Ce sont d'abord des gens qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Et début août 2015 à Toulouse, en Haute-Garonne, on s'inquiète pour Eva. Eva Bourceau, 23 ans. Ça fait une semaine qu'elle n'a appelé personne. Ni ses copines, ni ses parents. Et sa mère s'inquiète vraiment. Texto, coup de fil, Facebook, d'une manière ou d'une autre, Eva est tous les jours en contact avec sa famille. Elle n'a plus rien. Les copines, en revanche, au début, ça ne les surprend qu'à moitié. Elles se sont engueulées la dernière fois. Et puis tout de même, au bout d'un trop long silence, l'une des copines vient sonner à l'interphone du voisin du dessous.
Allô, oui ?
Allô ? Bonjour. Je suis une amie de votre voisine du dessus, Eva. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas de nouvelles. Vous savez si elle est là ou si elle est passée ces derniers jours ? Non. Il ne sait pas, même si en vérité, sa colocataire a entendu du bruit au-dessus, un matin, vers 7h. Une voix de femme, étouffée.
« Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous !»
Ils en ont parlé. Mais en même temps, Eva fait souvent des soirées, il y a toujours du monde chez elle. Ils ne se sont pas inquiétés. Matin, le voisin entend la porte du bas s'ouvrir. Bizarre. On est au mois d'août, tout le monde dans l'immeuble est en vacances, ils ne sont que 3, lui et sa coloc, et Eva au 3e. Et il entend des pas dans l'escalier, qui montent droit au 3e. Alors il enfile un t-shirt, un jogging, il sort en chaussettes pour ne pas faire de bruit, et il monte. Et il arrive devant la porte d'Eva, et il tend l'oreille. Rien. Pas un bruit. En revanche, une odeur. Pouah ! Une odeur d'ailleurs qu'il avait déjà remarquée dans l'immeuble. Il avait pensé aux poubelles, à la chaleur. Mais là, c'est puissance 10 000. Honnêtement, ça sent la mort. Alors il redescend sur la pointe des pieds. Il rentre chez lui. Et là, juste au-dessus, il entend un grincement. Il attrape son téléphone, il a le numéro de l'une des copines d'Eva, et il lui envoie un texto. Il y a quelqu'un chez elle. Je suis allé toquer, ça n'a pas répondu. Je suis sûr que ça n'est pas elle, faut pas se foutre de ma gueule. Et là-dessus, le voisin part travailler. Et en arrivant dans le hall, bizarre, la porte d'entrée est grande ouverte. Je vous l'ai dit, la voisine du premier est en vacances, il n'y a personne d'autre que lui et sa coloc au deuxième, et en principe Eva au troisième. Alors qui a laissé la porte d'entrée ouverte ? Le lundi 3 août, ça fait 8 jours que personne n'a de nouvelles d'Eva. Sylvie, sa mère qui habite dans l'Aude, débarque à Toulouse. Au passage, elle embarque Camille, une copine d'Eva, et elles arrivent toutes les deux devant l'immeuble. C'est le voisin du dessous qui leur ouvre. Elles montent, elles arrivent devant la porte, Et l'odeur, elles appellent tout de suite les pompiers.
Allô ?
Oui, bonjour. Voilà, je suis au 38 rue Merly. Ça fait 8 jours que je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Devant chez elle, il y a une odeur terrible. Vous pourriez venir voir ? Les pompiers arrivent. Ils déploient leur grande échelle. Un pompier grimpe sur le toit. Il marche jusqu'au Velux de la chambre d'Eva.
On voit rien. Il y a une feuille de papier collée sur la vitre.
Mais dans un coin, le papier n'est pas bien collé. Alors il regarde.
Allez-y, foncez! Ouvrez la porte!
Ce que ce pompier vient de voir par le petit trou dans le papier, il ne l'oubliera jamais. Les pompiers entrent dans le salon. Sur la porte de la chambre d'Eva, il y a du scotch partout autour. Et sur le bas de la porte, un vêtement roulé. C'est pour l'odeur. Ils donnent un grand coup de pied dans la porte. Et ils entrent. Et là, l'odeur devient insupportable. Au pied du lit, il y a une malle. Une malle en plastique. Et dans la malle, il y a un corps recroquevillé. Un corps qui baigne dans un liquide rougeâtre. De l'acide chlorhydrique. De l'acide qui a commencé à ronger le corps. On voit des os, mais on voit aussi des plaies. On voit des coupures. Eva avait 23 ans. Débarque le capitaine Sens de la police, qui découvre l'appartement. Près de l'entrée, il y a une douzaine de sacs poubelles noirs, fermés, qui contiennent, semble-t-il, toutes les affaires d'Eva. Les policiers notent aussi la présence d'un pied de biche et d'un fauteuil renversé. Au petit matin, arrive le médecin légiste. 25 ans d'expérience. Eh bien, il n'a jamais vu un truc comme ça. Un corps à moitié rongé dans un bain d'acide chlorhydrique.
Bon, l'idéal serait de descendre le corps dans la malle, hein? Mais avec l'escalier, qu'est-ce que vous en pensez? Un escalier à colimaçon, on va pas y arriver. Moi, je pense qu'on risque de renverser l'acide.
Et donc, on fait des prélèvements du liquide, on vidange la malle, et on emmène le corps à l'Institut médico-légal à Rangueil. Le capitaine Sens de la PJ appelle le père d'Eva.
Bonjour monsieur. Capitaine Sens de la police judiciaire à l'appareil. Bon, je voulais vous dire que je suis papa, moi aussi. Je comprends bien ce que vous devez ressentir. Je voulais vous dire qu'on va les retrouver, hein? C'est une question de temps, mais on va les retrouver. À part ça, il faut que je vous dise quelque chose que vous devez savoir, autant que vous ne l'appreniez pas par la presse. Votre fille dealait. Elle dealait de la drogue. Bon, c'était pas Pablo Escobar, hein, mais elle dealait. Je vous tiens au courant de la suite, monsieur.
Cette enquête va aller très vite. Car le surlendemain de la découverte du corps d'Eva, dans la malle, un couple se présente au commissariat central de Toulouse. Lui s'appelle Tara, et elle, c'est sa petite amie. Et c'est lui qui parle.
Bonjour. Voilà, j'ai des informations à vous donner sur la mort d'Eva Bourceau.
D'accord. Eh bien, écoutez, là, vu l'heure, il faudra repasser. Vous pouvez revenir vers 14h.
Ils reviennent. Et Taha, devant les policiers, balance un de ses copains, Zacharia.
Zach, il m'a dit, j'ai fait de la merde, j'ai tué Eva. C'est lui qui a eu l'idée de l'acide et de la malle et de tout ça, quoi.
Et vous pouvez nous dire comment ça s'est passé?
Moi, j'y étais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une bagarre, que Zach a frappé Eva avec Un poids américain.
Dans la foulée, le copain Zach, de son vrai nom Zakaria Banouni, 18 ans, est interpellé. Et je m'arrête d'ailleurs 2 secondes sur ce moment, sur son arrestation. Zach, on le verra, est un toxicomane, un gamin au bout du rouleau. Dans les semaines qui ont précédé son arrestation, il s'est défoncé. Il avait un boulot, il n'y est pas allé. À la veille de son arrestation, ses parents sont allés le chercher dans l'appartement où il squattait. Ils l'ont trouvé maigre, blafard, un zombie. Ils ont réussi à le ramener à la maison. Ils ont dormi près de lui. Et le matin, ils l'ont emmené à son boulot dans une déchetterie. Ils avaient réussi à le remettre au travail. C'était une petite victoire. Et le soir, en rentrant, Zach, leur fils, se fait arrêter pour meurtre. À 22h30, Zach est amené dans un bureau pour un premier interrogatoire. Il est dans un sale état.
J'ai mal à la tête. J'ai envie de dormir.
Avec tout ce qu'il prend. Ça fait 8 jours qu'il n'arrive pas à dormir. Alors on fait venir un médecin qui écrit sur son rapport « Avis psychiatrique souhaitable ». Le lendemain, Zach a dormi.
Je vais essayer de vous parler.
Et il raconte une histoire très différente de celle de Tahar. Pour que vous compreniez, dans cette histoire, ils sont 3 copains. Tahar, Zach et Guillaume. Ils sont toxicomanes tous les 3, mais Guillaume est leur dealer. Et voilà ce que raconte Zach.
Avec Tahar, on est allé chez Eva pour la cambrioler. On voulait voler sa drogue et son argent. Tahar avait une dette auprès de Guillaume, le chinois.
Mais il dit que ça ne s'est pas passé comme prévu. Que quand ils sont arrivés, Eva était chez elle. Alors ils sont allés faire un tour. Quand ils sont revenus, elle était encore là. Alors ils sont montés. Ils ont passé toute la nuit avec elle à consommer de la drogue, en matant des documentaires sur Arte. Au petit matin, il dit qu'Eva était fatiguée, qu'ils sont partis de chez elle. Et puis qu'ils ont décidé d'y retourner. Tahar a sonné en prétextant avoir oublié ses clés. Ils sont montés. Tahar avait un pied de biche et lui, un poing américain. Et Zach dit que c'est lui qui frappe le premier, jusqu'à ce qu'elle tombe. Et que là, Tahar se penche sur elle.
Où est l'argent? Où est l'argent? Derrière le fauteuil.
Selon Zach, Tahar ne trouve pas l'argent. Alors il revient vers Eva avec son pied de biche en hurlant.
Où est l'argent?
Et bam, il lui balance son pied de biche sur la tête. Le pire, c'est que l'argent, il va finir par le trouver, 900 euros derrière le fauteuil. Mais Eva, elle est morte. Mais Zach n'a pas encore tout raconté. Et après, d'où vient cette idée folle d'avoir mis le corps d'Eva à dissoudre dans de l'acide chlorhydrique pendant 1 semaine? Après le meurtre, Tahar et Zach rentrent chez eux, sonnés. Ils diront qu'ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils ont fait. Ils voudraient que ce soit un mauvais trip. Et puis ils y retournent. Ils vont dans l'appartement et le cadavre est vraiment là. Et à ce moment-là, selon Zach, Tahar aurait dit
« Hé mec, je nous ai mis dans la merde. Je vais nous en sortir. »
Et c'est Tahar qui aurait eu l'idée de l'acide. Il l'aurait vu dans la première saison de la série Breaking Bad, figurez-vous. Et donc ils vont acheter 3 bidons de 5 litres d'acide chlorhydrique au casino, hein, de la place Saint-Georges. C'est en vente libre. Et puis ils achètent une malle, place Esquirol, et ils mettent le corps d'Eva dedans. Ça leur prend du temps. Le corps est trop grand, il faut le plier. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'acide. 15 litres, ça ne suffit pas. Alors ils retournent en acheter 12. Et après, tous les soirs, ils viennent voir si ça avance, si l'acide a mangé le corps. Et ça va moins vite que dans Breaking Bad. Voilà. On a deux versions différentes. Tara qui accuse Zach, et Zach qui s'accuse et qui accuse Tara. On a donc tendance à croire Zach, puisqu'il s'accuse aussi. Et je vous le dis tout de suite, Tara finira par reconnaître que ça s'est passé comme Zach l'a dit. Comme je viens de vous le raconter. Alors je ne sais pas quelle idée vous vous faites de ces deux garçons qui viennent d'être arrêtés. Taha Mrani Alaoui et Zakaria Banouni. Ces deux petits toxicos qui viennent de tuer Eva. Eh bien, je crains que vous ne soyez surpris. Parce que Zach et Taha sont des matheux brillants. Zach sort du lycée Fermat, le plus grand lycée de Toulouse, où il a remporté un prix aux Olympiades scientifiques. Avec deux amis, il a inventé une main articulée qui traduit la langue des signes. Quant à Taha, il a raté d'un quart de point l'entrée à Polytechnique. Mais il a intégré une grande école d'ingénieurs. Ce sont des crânes d'œufs. Ce ne sont pas des petites frappes. Et c'est ce qui a fait le succès de cette histoire dans la presse, le décalage entre le milieu des deux accusés et le crime. Zakaria, par exemple, vient d'un milieu modeste. Il a été repéré en terminale comme élève brillant par la fondation de la Dépêche du Midi. Il a reçu une bourse pendant 2 ans et bénéficié de l'accompagnement d'un tuteur qui, d'ailleurs, quand il apprend ce qui s'est passé, n'en revient pas. Zach ? C'est pas possible, il a eu un rôle périphérique. Ah non, non. Non, il a eu un rôle central. Central ? Zakaria ? Mais c'est lui... Il est capable de faire un truc pareil, alors n'importe qui peut faire ça. Le tuteur est tellement surpris qu'il ne le lâchera pas. Il ira le voir en prison. Quant à Tahar, il est marocain, arrivé récemment en France. Mais au Maroc, il vient d'un milieu favorisé. Alaoui, c'est son nom. Et c'est une famille de lignée royale. Le père est journaliste, la mère est chef de laboratoire. C'est un gamin qui a été choyé, encouragé dans ses études. Alors qu'est-ce qui les a fait basculer tous les deux? La drogue? Voici une liste des drogues que Zach, Ta et Eva pouvaient prendre au cours d'une seule soirée. MDMA, ecstasy, champignons hallucinogènes, cocaïne, morphine, LSD et kétamine. Voilà à quoi ils carburaient, tous les trois. Je ne vous ai pas encore parlé de Guillaume, dit le Chinois. C'est leur dealer. Lui aussi est interrogé. Ben, je reconnais que je connais ta et Eva. C'est moi qui les fournissais pour leur petit trafic. Moi, le produit, je le trouve sur le Darknet. Mais les decks d'Eva, ça n'a jamais existé, hein. Eva, elle payait toujours comptant. Et comme ce Guillaume n'apparaît sur aucune des caméras de vidéosurveillance de Toulouse, alors que les deux autres, oui, les policiers finiront par le relâcher. Plus d'un an après le crime, en octobre 2016, une reconstitution est organisée dans l'appartement d'Eva, qui est tellement petit qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les avocats, les policiers et le légiste sont obligés de suivre la scène sur un écran vidéo. Zach et Taha refont les gestes. Zach a bien frappé Eva avec un poing américain. Et ensuite Taha avec un pied de biche. Mais est-ce qu'on est certain que c'est le pied de biche qui tue Eva? Le juge pose la question au légiste. Non. Non, intellectuellement, je peux pas vous dire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est le coup porté avec le pied de biche qui tue Mademoiselle Bourceau. Non. À l'autopsie, on constate assez peu de dégâts cérébraux. Moi, je n'exclus pas qu'elle soit morte d'asphyxie. même si j'en ai pas de certitude. Un premier procès se tient en octobre 2018. Il ne s'agit pas encore de les juger pour le meurtre d'Eva, mais de les juger d'abord pour trafic de stupéfiants devant le tribunal correctionnel. Procès absolument sans enjeu pour Tara et Zach, mais important pour leur copain Guillaume, dit le chinois. D'entrée, le président du tribunal avertit la salle. Les faits reprochés sont à l'arrière-plan criminels. Hein, on ne peut pas les évoquer sans évoquer ce qui s'est passé ensuite. C'est ce qui vous relie, tous ici. À l'issue, Taha, Zach et Guillaume sont condamnés à 18 mois ferme. Mais ils savent que cette peine sera absorbée par la prochaine. Car maintenant, il faut juger Taha et Zach pour le meurtre d'Eva devant la cour d'assises. Et tout l'enjeu est de comprendre comment deux étudiants brillants en sont arrivés là. Pourquoi ça a déraillé? Tout le monde se pose la question, y compris les parents, à la barre. Le père de Zach, par exemple.
On n'a rien vu. On n'a rien vu.
Et sa mère aussi.
Je comprends pas comment ça s'est passé. Pourtant, j'ai toujours fait attention.
Idem pour Nicolas, un copain de Zach, qu'il a reçu chez ses parents une semaine avant le meurtre.
Quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai dû faire au moins deux nuits blanches. Comment? Mais comment, là, la personne que je connais, qui aurait fait de mal à personne, qui jouait la veille avec mon petit frère au trampoline, comment il a pu en arriver là? Ça a été une claque pour moi.
Idem encore pour Walid, un copain de Taha.
Ça colle pas. Taha, c'est vraiment un mec doux, timide. C'est pas du tout le profil de fait entrer l'accusé. C'est pas possible. Il a grandi dans une famille qui lui a tout donné.
Alors on cherche du côté de la pression, pression familiale d'abord. Taha explique.
Au collège et au lycée, tous les professeurs connaissaient le parcours de ma grande sœur. Alors il fallait que je fasse au moins aussi bien, si c'est mieux qu'elle. C'est là que ça a commencé, la concurrence.
Taha qui parle aussi de son échec à Polytechnique.
Si ça avait été un point ou deux points, et là, raté de si peu, un quart de point, je pouvais pas l'accepter.
Pression aussi du côté de Zach, premier enfant d'une famille d'immigrés. À la barre, c'est lui qui en parle le mieux.
La pression dont j'ai souffert, c'est celle que je me suis mise moi-même.
Et Taha rate deux fois Polytechnique, et Zacharia ne peut pas intégrer la filière PSI en maths P dont il rêvait. Il échoue en deuxième année de licence de maths. A priori, c'est à ce moment-là qu'ils décrochent tous les deux, et qu'ils se mettent à consommer des stupes, et que leurs copains les voient devenir gris, verdâtres.
Au début, ils passaient tout leur temps à parler de maths. Et puis à un moment, ils ont plus parlé que de drogue. Leur consommation a complètement modifié leur rapport au monde. Elle a créé un chaos dans leur esprit.
Zach dit aussi.
Je sais pas comment vous expliquer la drogue. Elle présente un certain intérêt.
Leurs amis viennent raconter. La table basse dans le salon chez Taha, un étal de cam. Des pilules d'ecstasy, des parachutes de MDMA, des amphétamines, de la mescaline, de l'herbe, de la cocaïne, à profusion. Les gens passent, ils consomment sans payer. À la barre, Tahar raconte.
Le lendemain d'une soirée, je me suis aperçu que j'avais offert pour l'équivalent de 1000 euros de drogue. Je payais tout. Je pensais que l'argent pouvait acheter l'amitié. Après, je me suis aperçu que j'avais plus de problèmes que d'amis.
Isaac complète.
Mais c'est là que ça a commencé à se compliquer. Ça représentait quand même un budget, 1000 euros. Alors Tahar m'a fait culpabiliser. Il m'a dit, c'est pas normal de perdre autant d'argent en une soirée. Il m'a dit, tu vas m'aider à me remettre d'aplomb.
On essaye de savoir qui a proposé à l'autre de devenir dealer. Est-ce que c'est Zach? Est-ce que c'est Tahar? Ils ne savent plus. Mais Tahar a dit,
j'ai été une mauvaise rencontre pour Zach. Oui. Et lui, une mauvaise rencontre pour moi. Je veux être clair là-dessus.
Et Eva Bourceau, alors, comment l'ont-ils connue? Eva, c'est surtout Tahar qui la connaissait.
Eva, c'était une chouette amie. Parfois, je voulais pas la voir parce que c'était un peu un miroir pour moi. Je me voyais en elle. On a eu des discussions très lucides sur notre déchéance dans la drogue.
Pressentant que la drogue va devenir une excuse, une amie d'Eva explose à la barre.
Nous aussi, on prenait de la drogue. On n'est pas devenus des criminels. On n'est pas devenus des criminels. Faut être mauvais. Un être mauvais.
Et puis arrive le moment de raconter pourquoi ils ont tué Eva. Et il y a d'abord l'explication de Tahar.
10 jours avant, je suis allé dans une rave party, puis j'ai été volé. Alors j'ai demandé à Guillaume la liste des gens qui lui devaient de l'argent. Il m'a dit qu'Eva lui devait 1100 euros et qu'elle devait lui rendre le dimanche ou le lundi. Alors je me suis dit qu'elle avait l'argent chez elle.
Zach raconte que Tahar lui envoie un SMS. Quand tu reviens sur Toulouse, on aura un super coup. Le dimanche 26 au soir, les deux copains se retrouvent. Ils prennent des amphétamines pures, un parachute de MDMA, et ils mettent au point le cambriolage d'Eva.
Ça m'a paru une évidence de faire ça. C'était la solution de facilité, quoi. Dans le milieu de la drogue, on n'a plus d'amis. Mais Zach n'a présenté aucune résistance. Au contraire, on s'est encouragés mutuellement. Il disait que c'était une bonne idée.
Une avocate fait alors remarquer que Tahar n'avait que 128 euros de découvert à la banque, qu'il n'y avait rien de catastrophique. Réaction de Tahar.
Je sais. Je vivais dans une réalité complètement déformée, accentuée par la prise de drogue. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ces dettes. Je gérais mal mes comptes. On n'avait pas de suite dans les idées.
La fin du procès approche. Seront-ils condamnés à la même peine? Dans son réquisitoire, l'avocat général réclame perpète pour Tahar et 30 ans pour Zach. L'avocat de Zach, lui aussi, fait la différence.
Qui a eu l'idée du cambriolage? Tahar? Qui a réuni les éléments pour la commission du cambriolage? Tahar? Qui a utilisé l'argent? Tahar? Qui a eu l'idée de dissoudre le corps? Tahar. Et qui est allé à la police pour dénoncer Zacharia? Tahar.
Le vendredi 21 décembre 2018, après plus de 4 heures de délibéré, la cour d'assises rend son verdict. Zacharia Banouni est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et Tahar Mrani Alaoui à 30 ans. Aucun des deux ne fait appel. En détention, Tahar a validé sa licence de mathématiques, mais il ne reçoit aucune visite. Zacharia, lui, a passé une licence d'anglais. Il a commencé des études de lettres modernes. Il ne veut plus jamais entendre parler de mathématiques.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.